Je suis heureux de vous accueillir pour cette séance du séminaire de la chaire Exil et Migration intitulée « La ville migrante ». Il est certains sujets qu'on ne peut pas aborder directement et donc vous ne vous offusquerez pas de notre dimension, de notre positionnement quelque peu indirect. Certains problèmes techniques nous y obligent. Premier séminaire donc au 54 boulevard Raspail, et j'insiste sur le fait qu'il y a eu déplacement depuis l'avenue de France jusqu'au boulevard Raspail pour introduire cette dimension urbaine de l'exil de masse contemporain vers l'Europe. Cela fait très longtemps que je voulais organiser cette réflexion. Pourquoi ? Parce que simplement notre séminaire se tient à Paris et que à quelques stations de métro d'ici, les migrants habitent la ville, habitent Paris comme nous l'habitons. Vraiment comme nous l'habitons, certainement pas. Il y a là une simultanéité de deux urbanités qui doit nous interroger, qui doit nous interpeller. Et je crois qu'elle ne nous interroge pas, elle ne nous interpelle pas suffisamment. Nous faisons comme si les migrants n'étaient pas là auprès de nous, dans une ville comme Paris, d'autres grandes villes. Mais nous allons centrer, du moins c'est ce qui est dans mon esprit, centrer notre réflexion sur la réalité urbaine qui est la nôtre. Au Festival de Cannes qui s'est achevé hier soir, un film portait sur cette question, Happy End. Posait la question de comment est-ce qu'on peut coexister avec les migrants. En revanche, le G7 qui s'est terminé samedi soir a dû reconnaître qu'aucune avancée n'avait été faite quant à la gestion de la supposée crise migratoire en Europe. Une fois de plus, l'art est en avance sur la réalité politique. On l'a appelé, par exemple, cette urbanité qui nous interpelle, on l'a appelé la jungle, quand on la trouvait à Calais, notamment. Et je crois qu'au-delà des discussions que nous pouvons avoir sur ce terme, nous devons retenir qu'à ce terme de jungle s'attache une dimension de sauvagerie. Et que précisément, ce que Calais a démontré, c'est qu'il n'en était rien. C'est que l'urbanité migrante qui se mettait en place n'avait rien de sauvage. Qu'elle avait une organisation, qu'elle avait une autonomie qui échappe à la rationalité urbaine que l'on connaît, mais qui non moins était une logique urbaine. D'une certaine manière, ce qui m'interpelle dans le terme d'habitat que la sociologie avec lequel la sociologie nous a familiarisés, c'est que ce terme d'habitat peut, dans le cas des migrants, retrouver son sens quasi zoologique. L'habitat urbain des migrants est comme un habitat animal. Il y a effectivement une manière pour un animal d'habiter son lieu. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'urbanité migrante, ce que j'appelle un peu rapidement la ville migrante, est entre nature et culture. Qu'elle habite la ville, c'est-à-dire le summum même de la culture, comme elle habite une nature. Et je crois qu'il y a là un rapprochement à interroger. J'ai invité deux personnes pour en réfléchir avec nous. Christophe Laurence, qui va prendre la parole en premier, qui est architecte, paysagiste, enseignant en arts appliqués et cofondateur du master Alternative urbaine de Vitry-sur-Seine. Il s'intéresse particulièrement à la fabrication des territoires urbains, aux pratiques habitantes et à tous les efforts d'imagination politique ou artistique qui prennent précisément au sérieux les conséquences du réchauffement climatique en cours, dont la supposée crise migratoire est un des aspects. Il est membre du comité de rédaction de la revue Entropia, revue d'études théoriques et politiques de la décroissance, et membre de l'Institut Momentum. Pascal Cognet, qui prendra la parole en second, est diplômée en développement économique et social et en espagnol. Elle a exercé en tant que professeure au lycée à l'île de la Réunion pendant une trentaine d'années et a siégé sur le comité d'expertise pour donneur d'organes vivants de l'agence de biomédecine pour la région Réunion. Depuis son retour en France, elle travaille comme traductrice. Elle a intégré le théâtre Aleph, qui est un théâtre chilien en exil à Ivry-sur-Seine, et elle a rejoint le collectif Psydej à Flandre. Elle est notamment sensible à la cause des intérêts, à la cause des mineurs isolés en France. Donc après la première réflexion de Christophe, qui est une réflexion plus globale, Pascal va nous ramener sur le terrain qui est le nôtre, qui est celui de la ville de Paris, pour nous dire comment vivent les migrants. Et puis bien sûr, comme nous le faisons habituellement, la discussion sera ouverte à tous les participants du séminaire. Christophe, je vous passe la parole.
Merci Alexis pour cette invitation. C'est ce titre de ville migrante que Alexis a proposé, à partir duquel j'ai essayé de travailler un petit peu, qui finalement m'est apparu comme une possibilité nouvelle que j'avais pas forcément repérée en tant que telle, mais une possibilité d'une nouvelle urbanité ou d'une nouvelle forme d'urbanité. On va le voir, je vais l'expliquer un petit peu plus précisément. À partir de l'étude de Calais, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à Calais, et puis à partir de Calais, on élargira ça sur une réflexion un petit peu plus générale sur l'histoire de l'urbanisation et de ce qui nous arrive en ce moment avec cet effet des migrations sur les villes. Juste pour cadrer un petit peu la chose, quand je dis que c'est potentiellement une nouvelle modalité d'urbanité, une nouvelle manière d'habiter les villes, cette idée de ville migrante, ça veut dire que c'est ni la ville traditionnelle qu'on connaît, qu'on a connue, ni la ville moderne qui lui a succédé, ni ce qu'on appelle la ville informelle, c'est-à-dire les bidonvilles, les slums, la ville informelle subie ou choisie. Il peut y avoir mille formes, plus ou moins agréables, plus ou moins choisies ou subies, plus ou moins criminelles, plus ou moins sympathiques, de ville informelle. Là, c'est encore autre chose. C'est pas simplement une ville qui est informelle dans le sens où elle n'est pas programmée par des urbanistes, des élus, etc., des responsables administratifs. Cette ville migrante, c'est une ville qui est éphémère et qui surgit, on ne sait pas quand et on ne sait pas où, et on ne sait pas pour combien de temps. Et donc ça, c'est une modalité absolument inédite à cette échelle-là, en tout cas. Et pour l'instant, on est bien démunis pour faire face à cette demande-là d'urbanité, c'est-à-dire de continuer à faire du commun, même pendant qu'on est en train de migrer, pendant qu'on est en exil, sans être encore arrivé quelque part. On n'est pas encore dans cette phase de où on se pose, où on réhabite autrement ailleurs. On est vraiment toujours dans cette phase de mouvement. Et pourtant, là encore, il faut arriver à transporter de l'urbanité et de quoi faire du commun. Alors, en tant qu'architecte paysagiste, c'est-à-dire au sens du paysage urbain, c'est-à-dire de la manière dont on fabrique les territoires urbains, quand je dis « on », c'est pas simplement les architectes, les paysagistes, les urbanistes, les élus, c'est « on », y compris les habitants, humains, non humains, le climat, etc. Donc c'est de la manière dont les villes se fabriquent. Donc de ce point de vue-là, il y a quelques éléments, on va dire, quelques éléments matériels pour fabriquer une ville. Il y a quelques recettes qu'on connaît assez bien. Il y a quelques tactiques pour que les choses fonctionnent plus ou moins bien. Et on va voir un petit peu quelles sont celles qui sont mises en œuvre en fonction des différentes situations historiques et en fonction maintenant de ce à quoi on est confronté avec cette ville migrante. Donc la ville migrante pour une histoire croisée de l'urbanisation de la terre et des migrations humaines. L'idée, c'est que là, on a affaire avec ce sujet-là à deux volets de l'histoire, une histoire de l'urbanisation qu'on va regarder très très rapidement parce que c'est pas notre sujet tout à fait principal ici, et puis une histoire des migrations humaines qui elle aussi à long terme connaît actuellement des développements absolument inédits. Et donc c'est de voir comment ces deux histoires-là se croisent et comment on s'y prend. En gros, là, c'est une vue aérienne de ce qu'on appelait la New Jungle de Calais. Vous repérez des tentes disséminées. Alors, je peux même pas montrer parce que moi, j'ai pas les images à l'écran. Mais bon, vous comprenez à peu près cette dissémination dans les dunes de Calais, un certain nombre d'ensembles de tentes. Voilà donc ce que j'appellerais ici la ville migrante vue d'un petit peu plus près, hein, c'est-à-dire cette installation comme ça au jour le jour, une espèce d'architecture du jour présent qui se développe. Et puis voilà une des choses pour lesquelles j'ai choisi Calais, c'est-à-dire cette confrontation entre la ville migrante et l'installation des conteneurs qui a été réalisée à un moment donné en évacuant toute la partie sud, là l'image a été renversée, toute la partie sud du site pour poser les conteneurs à la place. Alors, on reviendra sur la question de ces conteneurs, mais vous voyez la confrontation, là, ne serait-ce que graphiquement, entre ces deux mondes-là. Donc, Calais, ça m'intéressait aussi parce que ça a été assez bien documenté par plein de photographes, de reportages, de journalistes, et notamment par un travail mené par Cyril Anap, qui est enseignant à l'école d'architecture de Belleville, avec un groupe d'étudiants avec qui ils ont été sur place pour faire des relevés. De ces camps, de cette architecture, de cette urbanisation informelle. Alors voilà ce qu'il explique. Il dit l'hypothèse du travail, alors c'est un relevé architectural, urbain et humain. Hein. L'hypothèse de travail consistait à identifier derrière le désordre apparent en quoi la jungle de Calais constituait un laboratoire de la ville du 21e siècle. Avec ses restaurants, ses écoles, ses hôtels, son théâtre, ses églises et ses mosquées, ses boîtes de nuit, sa galerie et son école d'art, et ses 6000 habitants de plus de 15 nationalités, la jungle de Calais est un des territoires urbains les plus dynamiques en France. Elle constitue de fait l'avatar français du modèle qui connaît le plus grand développement dans le monde, qui abrite près de 2 milliards de personnes sur la planète, près de 30% de sa population, le bidonville, le quartier précaire, la ville informelle. Pourtant, extrêmement peu d'architectes et d'urbanistes se sont penchés sur cette problématique. Cet essai est un regard sur la question. Alors, c'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le fait que cette ville migrante serait associée, serait pour lui la même chose que de la ville informelle. Moi je pense qu'il est en train de surgir une modalité différente, ce que je disais en introduction, et on va voir pourquoi. Alors, l'atlas est assez complet, il y a 150 pages. Je vais vous présenter simplement la première partie, parce qu'après ça se répète sur différents quartiers, mais la logique d'analyse est toujours la même. Et vous allez voir que ça permet de comprendre les choses un petit peu différemment. Le simple fait qu'elles soient dessinées, qu'elles soient repérées avec une échelle, avec un graphisme, qui décrit les choses précisément. Donc là, vous avez le plan d'ensemble, hein, vous reconnaissez la grande pièce d'eau au milieu. Voilà, alors ça s'appelle sur la route de l'église. Hein. Chaque groupe d'étudiants a eu un quartier. Donc celui-là, c'est le premier quartier en arrivant sur la route de l'église. Donc vous avez la disposition générale des tentes et des cabanes. Et puis, alors, premier repérage, par exemple, les nationalités. Et on peut regarder qu'il y a, par exemple, des Kurdes dans différents endroits. Il y a des Soudanais dans différents endroits. Il y a des Afghans, etc. Alors, on voit plusieurs nationalités, mais on voit qu'ils ne sont pas regroupés uniquement sur des critères de nationalité. Il n'y a pas un quartier kurde et un quartier afghan. Donc c'est déjà une indication d'une organisation un petit peu plus subtile. Je ne sais pas si elle est liée à l'ordre d'arrivée, par exemple, de ces groupes, etc. Je ne sais pas quels sont ces critères-là, mais en tout cas, on peut le repérer assez facilement, on peut le cartographier. Alors, chose assez évidente, sur la route de l'église, toujours dans ce même quartier, activités et services. Donc vous voyez toute la liste dans la légende des activités et services qui sont répertoriées. Et le long de ce fil jaune qui constitue la rue principale, vous voyez qu'elles sont à peu près toutes localisées ici. C'est pas non plus très surprenant, mais ça signifie quand même que un service, c'est pas pareil qu'un logement, et qu'une rue principale, c'est pas pareil qu'une rue secondaire. Donc il y a une hiérarchie, il y a une rue principale. Le long de cette rue principale se trouvent des services qui s'adressent à la collectivité, au commun, et en retrait sur des rues secondaires, sur des passages secondaires, etc. Et on peut décliner encore ça après dans d'autres degrés. Se trouvent les logements et on rentre comme ça du plus public jusqu'au plus privé à travers toute une chaîne d'espaces et en franchissant un certain nombre de seuils. Je ne m'attarde pas sur les détails, hein, vous comprenez le principe. Commerce, électricité, bien sûr, il y a un certain nombre d'équipements, parce qu'il y a quand même un peu d'électricité, pas partout, mais on voit que les commerces réclament de l'électricité alors que les gens se débrouillent dans les logements beaucoup plus simplement. Chronotopie, c'est-à-dire à quel moment du jour ou de la nuit tel lieu est fréquenté ou pas. Je passe sur le détail, mais ça fait partie des grilles d'analyse possibles pour comprendre le fonctionnement d'un lieu. Circulation et flux, donc là vous voyez les grosses flèches sur les flux principaux, les petites flèches sur les flux secondaires, et on voit très bien que tout ça a une logique assez claire, assez nette à partir de la rue principale qui structure tout ça. Répartition des typologies, alors là, vous voyez, par exemple, il y a des hachures, même si ce n'est pas très clair graphiquement, mais l'idée, c'est qu'il y a des parties qui sont des tentes, d'autres parties qui sont des constructions, c'est-à-dire des cabanes un peu plus en dur, en bois, en gros, pour la plupart, et puis il y en a où c'est mixte. Hein. Et donc, en fait, c'est une espèce d'installation plus ou moins précaire, plus ou moins installée, qui se fait comme ça au fil du temps, et bien sûr tout ça bouge de semaine en semaine. Hein, là où il y avait des tentes, on peut avoir ensuite des cabanes parce qu'on s'est amélioré, on a trouvé du bois, etc. On a trouvé de l'aide ou quelques financements. Carte des risques, alors ça c'est par rapport au risque de soit d'incendie, soit d'inondation. Hein. Donc là aussi on voit bien qu'on s'installe, si possible, pas tout à fait n'importe comment, n'importe où. Potentiel secteur d'expansion, alors ça c'est plus une espèce de prévision au cas où d'autres arrivants surviendraient. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que, dans une BD, ça ferait figure de ville, quoi. Hein, c'est une ville un peu façon conquête de l'Ouest. On voit bien que c'est un peu bricolé le long du télégraphe, etc. Mais voilà, hein, une fois qu'on a un peu repéré tout ça, on voit très clairement qu'il y a une allée principale, des quartiers qui s'organisent autour de cours, après, à chaque fois, etc., avec chacune leur ambiance, leur communauté, leurs habitudes, etc. Alors après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Ça, c'est toute la série des seuils qu'on franchit depuis, vous voyez, en haut à droite, l'autoroute, jusqu'à, en bas à droite, la rue des Dunes, hein, du plus public au plus intime. Je passe sur les coupes qui sont sur les questions de profil du terrain, de voir là où on s'implante par rapport à l'autoroute, par rapport à l'eau, etc. Donc voilà une première occupation à gauche en gris, et puis vous voyez comment ça peut se compléter en rouge à droite, et comment la première structurait déjà la deuxième qui vient compléter, et ça se complète non seulement au niveau des habitats, des logements, mais aussi au niveau des éléments structurants, des services le long de la voie principale. Hein. Donc, on peut rentrer un peu dans le détail. Alors après, ils ont fait les parcours, vous voyez, des gens qui arrivent jusqu'ici, pour voir un peu quelles ont les étapes qui ont été franchies, etc. C'est un portrait extrêmement rapide, mais qui donne quand même une idée Voilà. Et puis après, on peut rentrer au niveau de l'architecture pour voir comment sont organisées les cabanes à l'intérieur, matériellement, comment on dort, comment on mange, par où on rentre, comment on accède après au reste de... s'il y a une cour commune entre les cabanes, etc. Voilà, donc je passe rapidement, vous avez compris, ça c'est par exemple le magasin afghan. Alors on a vu le portrait de Samir qui tient le magasin. Voilà, il a monté ça, il explique avec un ami à lui qui a réussi à passer en Angleterre et qui lui a laissé 300 euros avant de partir. Ça lui a permis d'acheter les marchandises et d'ouvrir son magasin. Bon, un groupe de femmes érythréennes dont la cabane, elle vivait à 4, la cabane s'est fait incendier et puis du coup elles se sont retrouvées accueillies chez des amis qui étaient déjà 4, donc elles sont maintenant 8 dans la cabane. Donc voilà leur petit dispositif, vous voyez que ça forme une petite cour là encore. Voilà, et elle se retrouve à 8 dans ces... Hein, là, vous voyez un peu les cabanes, à quoi ça ressemble. Évidemment, à Calais, il y a de la pluie. Donc, une des contraintes premières, c'est de trouver des bâches pour se protéger de la pluie et de les attacher comme il faut pour pas qu'elles s'envolent. Et voilà comment elles dorment dans la cabane à 8. Bon... Voilà, hein, d'autres, la communauté pakistanaise, etc. Je vous passe rapidement tous ces exemples, mais ça vous donne une idée du travail de relevé qui a été fait là-bas. Et à partir de ces dessins, voilà, et puis après, on a chaque secteur qui est analysé comme ça. Quel est l'intérêt de ce travail ? Cyril Anap, qui est donc l'enseignant qui a dirigé ce travail-là avec les étudiants de l'école d'archi de Belleville. Il relève plusieurs questions. J'ai repris une interview de lui qui est disponible sur Mediapart. Apprendre de Calais. Apprendre de Calais. Pour lui, il dit qu'il y a plusieurs choses à apprendre de Calais. La première, c'est que, avant de travailler à Calais, il a travaillé pas mal en Amérique du Sud. Et il dit qu'en fait, il y a des méthodologies qui existent, qui sont assez bien connues pour travailler dans ces situations-là. Assez bien connues en Amérique du Sud, mais pas tellement que ça en Europe, apparemment. Et qui sont basées notamment sur la participation des habitants pour la conception et la construction de ces zones d'habitation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose qu'il évoque, c'est la mise en place d'une méthode de relevé. Ce que vous venez de voir, le travail qu'il a fait avec les étudiants, qui consiste à relever non plus uniquement les murs, mais les murs, les objets, pour essayer de voir comment les gens vivent dedans et comment les objets, les murs, entre l'intérieur et l'extérieur, circulent, fonctionnent et comment tout ça est relié. Donc cette méthode de relevé pour essayer de décrire les choses, pas simplement en tant que telles, mais les choses dans la manière dont elles sont habitées, dont elles sont appropriées. Ce qui est toujours une difficulté puisque les relevés, les cartographies sont par définition en général des cartographies de choses fixes. Et qu'évidemment là-dessus on a besoin de choses un petit peu plus souples qu'un plan de maison pour comprendre ce qui se passe. Alors vous voyez que il y parvient partiellement. Pas complètement, mais on arrive quand même à décrire la situation avec des outils de l'architecture de manière un petit peu plus précise. Donc il dit une méthodologie se met en place, on analyse aussi bien les parcours individuels que ce qu'on appelle les chronotopies, c'est-à-dire les utilisations des lieux en fonction des heures du jour, analyse du risque bien entendu, relevé constructif, relevé habité, pour comprendre comment les gens vivent, comment ils gèrent l'appropriation des lieux. Bon. Troisième chose, il évoque le problème de manière plus générale en disant finalement, après avoir travaillé en Amérique du Sud, quand il revient en France, il se rapproche d'une association qui s'appelle le Pérou, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et il commence à travailler avec eux pour faire comme ça des relevés dans des bidonvilles dans la région parisienne, à Montreuil, à Grigny, Viry-Châtillon, Saint-Denis, Ris-Orangis. Et puis, il se rend compte qu'en fait, en France, il y a quand même 17 000 personnes qui habitent en bidonville. Ça paraît beaucoup, et ça paraît pas beaucoup, mais 17 000 personnes, c'est pas négligeable. En France. Et donc, dans des conditions à risque. Et il dit bien, je ne souhaite d'aucune façon pérenniser ces modes de vie, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a un constat à faire, il y a des gens qui vivent pendant des mois, des années, parfois des décennies dans cet environnement, et la meilleure manière de faire, ce n'est pas de les détruire, mais de les améliorer pour que les gens puissent mieux en sortir. L'idée, c'est que on n'arrive pas à simplement balayer tout ça pour offrir mieux. Et que, inévitablement, inlassablement, il y a des gens qui vivent dans ces conditions précaires. Et qu'à partir de là, sa position consiste à dire regardons cette situation, tenons-la pour réelle, existante et non éradicable, entre guillemets. Et à partir de là, essayons d'aider les personnes qui sont dans cette situation en améliorant autant que possible ces conditions du point de vue de l'habitation. Quatrième élément, il travaille avec le maire de Grand-Synthe, parce que c'est un élu, Damien Carême, qui préside le réseau des élus hospitaliers. Alors, ce n'est pas le cas à Calais, mais c'est le cas à Grand-Synthe. Vous avez entendu récemment qu'il y a eu un incendie qui a ravagé tout ce travail-là, qui n'a pas découragé le maire qui a assuré vouloir reconstruire un lieu d'accueil, etc., malgré cet incendie assez dur. Et donc Cyril Hanap, avec ses étudiants, travaille là-bas parce qu'il a besoin d'un contexte un petit peu accueillant malgré tout pour pouvoir travailler. Il travaille, dans le cas de Grande-Synthe, à ce qu'ils appellent la maison des migrants. C'est-à-dire une maison pour 50 personnes, 50 lits, des services de vie classiques, douche, cuisine, etc., des bureaux, des lieux d'interface avec la population locale, éventuellement des lieux d'exposition, de résidence d'artistes. C'est un lieu pour les migrants et pour les villes où il est implanté. Donc, première tentative pour lui de faire un peu au-delà de l'habitat minimum, de travailler sur une espèce de maison commune qui va à la fois servir d'hébergement, mais pas que, et qui va servir d'hébergement pour des migrants et de lieux de cantine, de lieux d'expression, d'exposition, de débat, etc., pour les migrants, mais pas que, aussi pour les gens des quartiers riverains ou de la ville qui est à côté. Avec l'idée que cette maison peut être reproduite dans d'autres situations. Donc il travaille avec, évidemment, il y a toute une plateforme d'associations qui sont sur place, avec qui il travaille. Il travaille en concertation sur l'idée de maison des migrants. Il la renomme la halte des migrants. Les étudiants construisent la première pièce de cette halte dans la jungle du Baroque, donc à Grande-Synthe, et c'est là, quelques jours après notre départ, la population explose. Elle passe de 80 à 3000 personnes en quelques jours. Donc ils sont là, il y a quelques 80 personnes qui sont là, qui s'organisent, des tentes, quelques baraques. Ils construisent cette maison pour recevoir 50 personnes, plus salle commune, etc. Et tout d'un coup, en quelques jours, 3000 personnes. Autant dire que on n'est plus du tout à l'échelle de la situation avec une baraque pour 50 personnes. Néanmoins, elle peut au moins servir de salle commune. Même pour 3000, on peut déjà y organiser quelques discussions. Mais on voit que ça n'a plus du tout la bonne efficacité. Il dit, là, c'est un autre problème qui va durer 9 mois. C'est une catastrophe. Aucune infrastructure n'était prête. Et c'est cette idée qui fait que la ville migrante est pour moi assez différente de la ville informelle. C'est qu'elle surgit comme ça très rapidement, quelques jours, 3000 personnes qui arrivent. Et il faut vivre, il faut habiter et il faut faire du commun. Et ça va durer quelques mois. ici 9 mois, et ça surgit pas forcément là où on l'attendait, donc forcément personne n'est prêt. On n'a pas l'eau, l'électricité, les allées, etc. Tout ça n'est pas organisé, évidemment. Par rapport à une ville informelle qui arrive comme ça, petit à petit, se constitue, même si on ne sait pas quand elle vient, où elle vient, etc., elle reste. Et par rapport à ça, les pouvoirs publics ou des associations, peu importe, peuvent revenir dans un deuxième temps et pérenniser et apporter du confort, de l'électricité, des réseaux, essayer d'améliorer un petit peu la situation. Là, il faut faire extrêmement vite, sinon ça ne sert à rien. Donc cette idée de que la situation explose et qu'on n'est jamais prêt à ça. Le septième point qu'il relève, c'est cette idée que faire des relevés, comme il le fait, des relevés d'architecture, ça peut avoir une dimension politique. Pourquoi ? Simplement le fait de faire ce travail de compréhension, d'essayer d'expliciter cette situation. Il dit, on affirme que ces choses-là existent en les dessinant. Les politiques ne veulent pas l'entendre, et pour tout le monde, le bidonville, c'est l'informel, c'est le camp, c'est la jungle, c'est un magma informe, sale, et la conclusion est qu'on ne peut rien faire. Faire le relevé, le dessiner, en rendre compte, c'est le nommer, c'est lui donner une identité, et c'est faire comprendre que ces lieux existent et que des gens y vivent, des êtres humains qui nous ressemblent plus qu'on pourrait le croire. Pour lui, donc, c'est ça ce qu'il appelle la leçon de Calais en 2015. C'est cette idée que, en dessinant, en faisant l'effort de compréhension, alors si on comprend, on peut commencer à travailler et à intervenir et à aider à transformer cette situation. Autre élément qui a été très marquant pour lui, et on va y revenir après, c'est sur cette histoire du démantèlement de la zone sud de la jungle de Calais pour implanter les containers que vous avez aperçus. Et donc là-dessus, il dit, en plus de la désertification tragique qui s'en est suivie, le plus grave est la démolition de la partie de la jungle qui était la plus développée. Les cabanes avaient remplacé les tentes, ont été déplacées à la hâte dans la partie nord. Elles ont été alignées comme au régiment, et on verra que cette référence au camp militaire est une chose récurrente dans ces situations. Il y avait des zones par nationalité ou par communauté. Aujourd'hui, il y a un mariage forcé, une promiscuité pleine de dangers. Tout ce qui était apparu organiquement et progressivement dans la zone sud a disparu. La gestion des abords, l'appropriation, une qualité de vie, une forme d'équilibre. Ce qu'il exprime, c'est que petit à petit, les personnes qui arrivent dans cette situation-là s'installent, s'ajustent les unes aux autres, à la situation, aux associations, etc., au milieu, et que petit à petit se forme un certain équilibre. Et là, après ce démantèlement, il résume tout ça en disant « on ressent une impression de tristesse ». Vous imaginez que pourtant avant, ce n'était pas non plus le paradis. Hein, on est quand même dans un camp de réfugiés à Calais. Et bien pourtant, après le démantèlement de cette partie-là qui avait été la plus développée, la plus ajustée, construite, se ressent une impression de tristesse. Suite à cet événement, tout ça s'est déplacé aussi vers Grande-Synthe. Et là, il travaille avec MSF, je vous passe les détails des tentes plutôt adaptées pour les parties de désert africain que pour Calais, etc. Et puis MSF a fini par mettre au point des cabanes. Les étudiants et les architectes, les collectifs qui travaillent sur place, les associations les aident pour l'implantation. Et il donne quelques conseils en disant on peut faire du micro-urbanisme. Même là, même dans cette situation d'urgence, on peut essayer de travailler à construire des cours, à construire des rues principales, des rues secondaires, etc. C'est pas du temps perdu. Et il dit MSF a renoncé à un alignement de boîtes à sardines. Ce qui veut dire que le premier réflexe, la première tentative, c'est l'alignement de boîtes à sardines. Et là encore, c'est la référence au camp militaire. de tout ça, ce qu'il conclut, en gros, et ce que je conclue avec lui sur cette question-là, c'est que la question qui se pose maintenant, c'est celle de la ville accueillante. La Linière, c'est donc là où il travaille à Grande-Synthe, qu'on le veuille ou non, c'est un quartier de Grande-Synthe. C'est-à-dire que ces morceaux-là de ville sont des quartiers, des ensembles, des agglomérations dans lesquelles ils se construisent, même si c'est que quelques semaines, même si c'est que quelques mois. Pendant quelques mois, il y a eu un nouveau quartier à Calais qui faisait partie de cette ville. Et dans l'histoire de Calais, cette ville-là laissera forcément des traces. Ce qu'il trouve aussi dans cette leçon de Calais, c'est qu'en fait, on observe, lui dit qu'il travaille avec ses étudiants dans les jungles, dans les bidonvilles, etc., en essayant de ne pas idéaliser, ce qui est un vrai risque, un vrai danger. Il dit les choses ont un prix dans les bidonvilles, les logements ont un prix, il y a de l'argent qui s'échange, il y a une économie. On ne dit pas que c'est un monde parfait, mais il y a néanmoins une possibilité d'invention et de créativité différente et basée sur d'autres valeurs que celles du support du capitalisme. Et là, il y a quand même une piste de réflexion et d'espoir, en quelque sorte, qui est l'espoir que, à mon avis, porte proprement les migrants d'une capacité créatrice d'organiser une vie nouvelle, autrement, ailleurs, avec ce qu'ils vont trouver, d'une capacité d'improviser la vie, et qui risque d'être assez précieuse pour pas mal d'entre nous, migrants ou pas, puisque la situation actuelle est tellement changeante et tellement instable, et je parle là notamment du réchauffement climatique et de l'ensemble de ses conséquences, que cette idée d'une précarité généralisée, d'une capacité à improviser sans perdre espoir, est sûrement un des ressorts les plus utiles par les temps qui courent. Et donc, cette équipe d'étudiants, cet architecte, trouve ce ressort-là dans ces situations improvisées. Et enfin, il dit... la jungle est le village du monde, le quartier de l'humanité, le forum des sociétés, c'est cette ville que le gouvernement veut détruire, car elle lui échappe. Elle est porteuse d'une idée différente du vivre ensemble, d'une société civile qui s'invente sans tutelle. Et là, on est confronté aussi à un double problème, c'est-à-dire que la tutelle en question, celle de l'État, celle de l'administration, la tutelle éventuellement technique, fait défaut, fait cruellement défaut, apparemment. Donc, les personnes concernées inventent des choses. Et tout d'un coup, naît une espèce d'espoir comme ça, d'un monde où finalement, on pourrait se passer de la tutelle. Où finalement, on est capable de faire un certain nombre de choses par nous-mêmes, en se donnant un coup de main, etc. Avec un peu d'imagination, et que ce qui nous importe dans la vie est souvent à portée de main, ou en tout cas pas très très loin, et qu'on peut déjà assurer l'essentiel sans l'aide de l'État. Alors, ça fait rêver d'un côté, et de l'autre côté, le problème, c'est que c'est justement l'organisation de ces États, c'est l'organisation publique que l'on cherche à mobiliser, parce qu'il n'y a qu'elle qui arrive finalement à structurer quand même et à rendre ces choses-là vivable quand elle s'y prend comme il faut. Donc vous comprenez que cette espèce de tension comme ça entre un appel à de la structuration et le risque d'une intervention de l'État ou de la tutelle qui est au contraire complètement destructrice, comme ce qui s'est passé avec les containers à Calais, il y a un jeu entre ces deux pôles qui est assez difficile. Je vais essayer de revenir pour finir sur l'autre. Ça marche. Impeccable. Donc voilà cette discussion entre l'intervention, vous voyez, de la tutelle qui amène des containers, et puis l'imagination et les bouts de ficelle de l'autre. Encore une fois, tout ça est très ambivalent, assez complexe. Vous remarquez qu'il y a quand même une clôture entre les deux. On pourrait s'en étonner. Voilà l'implantation des conteneurs. Vous voyez que contrairement à ce qu'on a pu observer dans le dispositif des tentes, dans l'atlas qui a été fait par les étudiants, vous voyez, il y avait une rue principale, et puis des cours, et puis etc. Et là, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune cour. En haut à droite, c'est les conteneurs qui sont en attente, ils sont en train d'être aménagés, et en bas, à gauche, vous voyez comment ils sont disposés. Ce genre de dispositif-là, comme les boîtes à sardines, comme disait Cyril Lanap, est proprement inhabitable, c'est-à-dire d'un point de vue de la possibilité de construire une urbanité là-dedans, si on demande à des étudiants de première année de l'école d'architecture de nous faire un plan masse pour disposer des maisons et qu'ils font ça, ils sont renvoyés immédiatement. Là, à l'évidence, ce dispositif-là n'a absolument aucun souci de la vie qui va être organisée dans cette ville-là. Alors, Mediapart, à propos de ces containers, voilà la mise en place, le chantier, on ne voit pas très bien, mais vous comprenez l'idée. Voilà, une fois installé, ce que ça donne à l'extérieur, avec le grillage de séparation. Il y a un contrôle biométrique avec toute la paume de la main pour accéder au camp des containers. Et donc, la Parisienne Libérée a publié un article sur Mediapart qui dit « Les containers de la honte ». Présenté comme humanitaire, le nouveau camp de Calais est entouré d'un enclos, vidéosurveillé, contrôlé par un système biométrique, sans eau, ni douche, ni possibilité de cuisiner. Les réfugiés disent qu'ils ressemblent à une prison et beaucoup refusent d'y aller. Ils ont raison. Derrière ces rangées de containers chauffés se dessine un piège sécuritaire. Et voici simplement voilà en substance pourquoi les réfugiés n'ont pas hâte d'aménager dans le soi-disant camp humanitaire, bien qu'ils meurent de froid, de maladie, d'accidents liés aux tentatives de passage et de colère contre la politique inhospitalière de la France. Ils ont publié ce texte, donc texte des réfugiés eux-mêmes. « Nous, peuple uni de la jungle de Calais, refusons les demandes du gouvernement français concernant la réduction de la superficie de la jungle. Nous avons décidé de rester où nous sommes et résisterons pacifiquement au plan gouvernemental visant à détruire nos maisons. Nous plaidons pour que les autorités françaises et la communauté internationale comprennent notre situation et respectent nos droits humains fondamentaux. » Bon, c'est assez clair. Et on comprend assez bien pourquoi. Voilà ce que donne l'intérieur de la zone. Alors, les conteneurs, c'est pas simplement à Calais, c'est un objet qu'on connaît bien. Alors j'ai appelé ça les conteneurs et leur monde, en référence en quelque sorte aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui disent lutter contre l'aéroport et son monde. Et là, vous comprenez bien que le conteneur, c'est un monde qui est étonnant parce que il est quand même le monde du capitalisme, à l'évidence, de la mondialisation, et qu'on propose aux gens d'habiter, là c'est pas une rue, comprenez bien qu'il y a une différence assez mince entre Calais et un entrepôt. Alors les conteneurs, c'est aussi voilà, un mur de conteneurs. Ça donne une idée de la chose. Vu d'avion, voilà ce que ça donne dans un port. Vous voyez qu'on est loin de choses qui s'habitent. Et voilà, quand on les empile sur un bateau, c'est quand même fait essentiellement pour ça, pour passer de bateau en camion, de camion en bateau, etc. Chose que les migrants en question, les exilés en question, connaissent assez bien. Et c'est un petit peu étonnant de leur proposer d'habiter là-dedans, parce que bien souvent, il y a pas mal d'accidents comme ça en mer, et il y a beaucoup de conteneurs qui se retrouvent à flotter ou à couler comme ça en mer, et on peut comprendre que c'est des expériences que certains d'entre eux ont pu vivre d'une manière ou d'une autre. Donc le conteneur, c'est doublement désastreux, si vous voulez, à mes yeux, à la fois comme symbole de ce capitalisme mondial et comme symbole de ces boîtes qui tombent à l'eau. Alors, pour revenir un peu sur la partie architecturale, urbaine, ça c'est une maquette de la cité radieuse de Le Corbusier, vous l'avez sûrement reconnu, qu'il élabore, vous voyez, juste après la guerre, qui a été construite à Marseille, et ça a quand même un air, bien sûr, il est très marqué par l'imaginaire des paquebots, hein, dans les années 30, c'est une chose qui est très présente dans l'image de la modernité, et là, il y a quand même une espèce d'anticipation sur le porte-conteneur qui est assez efficace. Il appelait ça une machine à habiter. Il y a même les couleurs. Bon, il faut se méfier malgré tout de ce genre de rapprochement parce que derrière ce porte-conteneur se cachent des logements très bien dessinés, parfaitement habitables, parfaitement habités encore aujourd'hui, qui servent d'hôtels, qui ont été privatisés, vendus, revendus, etc. Avec des coupes où le soleil rentre merveilleusement, etc. Donc tout ça conçu avec l'idée d'une autonomie urbaine. Pour lui, c'était une petite ville comme un paquebot est une petite ville. Mais avec des rues intérieures, avec le toit, avec une école, etc. Donc avec réellement des équipements et une vie possible à l'échelle de son paquebot. Donc l'image est un peu différente de ce que permet l'intérieur de cette chose-là. Néanmoins, on en a construit dans toute la périphérie parisienne, mais dans le monde entier, hein, des porte-conteneurs en tout genre, des barres de logement, des tours de logement. Voilà comment on a fait. Ça vous rappelle sûrement comment les conteneurs étaient en attente avant d'être dressés. Il y a ce qu'on appelle le chemin de grue. Hein, vous voyez la grue qui est sur des rails. Et puis, il y a tous les éléments préfabriqués qui sont en attente. Et la grue avance et pop, 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 pop. Elle monte comme ça les panneaux, les fenêtres. Et les tours montent à une vitesse grand V. 1964. Donc ça, c'est les moyens concrets, techniques, hein, de l'élaboration de ces plans, de ce qu'on a appelé les grands ensembles. Vous voyez, aux États-Unis, dans le Missouri, Saint-Louis, 1956, Pre-Tigo, une opération qui est restée célèbre symboliquement pour plusieurs raisons. Pas plus mal construite que les autres, mais vous reconnaissez là encore un petit air de famille avec l'implantation des containers qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une espèce d'absence d'urbanité qu'on voit très bien se développer tout autour dans la complexité des îlots, des maisons, des devants, des derrières, etc. Et là, tout d'un coup, la modernité fait table rase et s'implante comme dans un camp militaire. En 72, c'est-à-dire moins de 20 ans après, Pre-Tigo est détruit, tout simplement. Un des premiers immeubles démolis et qui va être pour ça le symbole de Charles Jenks, critique d'architecture américain, qui va dire l'architecture moderne est morte le 15 juillet 1972 à Pre-Tigo, en disant que ces bars-là, qui étaient le modèle de la ville moderne, sont devenus inhabitables parce que les conditions d'habitation se sont dégradées, etc. Encore une fois, la question n'est jamais purement architecturale, purement urbanistique, purement sociale, mais quand on mélange tout ça, ça finit mal. Et cette image-là a donc circulé dans beaucoup de spectacles, etc., parce qu'elle a été une des premières démolitions d'immeubles modernes. Ce qu'elle dit également, c'est que ces villes-là, une société qui a les moyens de construire autant, hein, vous voyez quand même, c'est pas tout à fait rien, autant de mètres carrés en dur, c'est pas des tentes, c'est pas des bouts de ficelle, et de les détruire 15 ans après, c'est une société extrêmement riche. Extrêmement riche. Aucune société traditionnelle n'aurait eu les moyens de détruire des choses pareilles. Hein. Donc, on se retrouve là avec un espèce de paradoxe. Ah, alors là, on voit pas très bien, c'est pas très grave, c'est une vue satellite de New York. Qu'est-ce que la ville moderne ? Intensive, j'ai rajouté. Intensive parce que intensive en énergie. Intensive en énergie parce qu'il faut capter de l'énergie pour la construire, il faut des minerais, il faut des bulldozers, il faut etc. etc. Hein, une énergie phénoménale pour construire. Et voilà Manhattan. Hein, vous imaginez l'échelle d'un chantier pareil qui se fait en quelques décennies. Donc il y a une mobilisation de l'énergie qui n'est possible qu'avec la puissance de l'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, hein, qui caractérise la ville moderne. Et donc il y a une ville moderne intensive au même sens qu'il y a une agriculture intensive. Hein, vous voyez l'agriculture bio ou l'agriculture vivrière, et puis de l'autre côté, l'agriculture intensive qui, grâce au pétrole, grâce aux tracteurs, grâce aux intrants chimiques, intensifie sa production, mais bouleverse complètement le paysage, change complètement d'échelle. La ville intensive, c'est exactement la même chose. Donc, il y a un saut d'échelle comme ça dans la captation de l'énergie. Mais, alors, New York, c'est pareil. On se dit, tiens, c'est assez carré aussi, ça a l'air bien rangé, un petit peu comme des containers, sauf que quand on regarde de plus près, on voit toute l'inventivité, toutes les manières qu'on a de s'amuser à l'intérieur des îlots pour retrouver des manières d'habiter, etc., etc. Et qu'en fait, l'image des plots, comme ça, de la grille, est complètement ensuite travaillée, défaite en mille variations qui changent tout. Et la nuit de Manhattan, c'est beau, mais ça donne une idée de l'intensité énergétique nécessaire pour faire fonctionner ces villes-là, pas simplement les lumières, hein, les voitures, les ascenseurs, etc., les usines, bien sûr. Et en comparaison, je vous ai mis la nuit de Shibam. Vous voyez, on dirait qu'il y a deux petites bougies là qui sont perdues au coin d'une rue. Vous imaginez bien que c'est pas du tout la même échelle de ville. Hein, quand vous en avez 20 millions pour le Grand New York, là vous avez 2000 habitants. On est au Yémen, mais j'ai mis Shibam parce que c'est la première ville qui fait des gratte-ciel dans l'histoire des villes. Et c'est des gratte-ciel qui montent quand même à 30 mètres. Ça paraît pas énorme, mais ceux-là, ils sont en terre crue. Donc c'est pas mal quand même. Alors voilà, on a vu la ville moderne, intensive, faite avec des quantités d'énergie phénoménales. Voilà ce qu'est la ville traditionnelle. Alors celle-là, c'est la modalité dans le désert, mais vous connaissez tous toutes les villes héritées du Moyen-Âge, etc., qui se développent comme ça, pour le coup, d'une manière pas du tout militaire, en général. Voilà ce que ça donne, les gratte-ciel du XVIe siècle. Là, vous voyez le lien entre cette ville qui est parfaitement close, hein, par sa muraille, et puis on voit très mal, mais derrière passe en fait le cours d'eau qui va déborder régulièrement pour fournir la terre, les alluvions, et pour alimenter en eau toute l'oasis qui va nourrir la ville. Donc dans la ville traditionnelle, il y a aussi ce lien indéfectible entre la ville et ses alentours nourriciers. Hein, ce qu'on trouve plus du tout, évidemment, à New York, par exemple. Et puis, la ville traditionnelle, ça a aussi une texture. Hein, et l'architecture vernaculaire, c'est l'architecture qui transforme ce qu'elle trouve là où elle s'installe, donc ce qu'elle trouve de la nature. Ici, elle a trouvé de la terre, elle a fait des briques et des enduits. Nous voilà au Chiminville, ville informelle. Toute la ville d'Ho Chi Minh Ville n'est pas comme ça, hein, c'est simplement une partie. Il y a aussi des gratte-ciel là-bas. Et ici, ce n'est pas tout à fait de l'architecture vernaculaire. J'appelais ça architecture de recyclage parce que ce qu'on recycle là, c'est les déchets, ce n'est pas la nature. C'est les déchets du monde industriel, des containers, de la mondialisation, etc. Et avec ça, on construit des cabanes. Hein. Mais donc, c'est aussi une manière de faire avec ce qu'on trouve. Et puis là, on est à Dharavi, à Mumbai. Le plus grand bidonville de la planète, sûrement, plus de 5 millions d'habitants, un truc de fou. Et vous voyez que là, on est entre cette ville traditionnelle, hein, entre ce que j'ai appelé le vernaculaire, fait avec les matières de la nature trouvées sur place, on a de la brique, on a etc. Et puis on a aussi quelques bouts de tôle, quelques bouts de publicité, bref, aussi des choses récupérées du monde industriel. Donc là, on a une petite mixture. On redescend un petit peu dans le dans cette ville informelle. Alors j'ai appelé la ville informelle informée, parce que vous voyez que même là où ça a l'air très précaire, il y a des paraboles partout. Donc, cette connexion est une chose quand même pas négligeable, parce que aujourd'hui, ces questions de migration sont liées aussi au fait que non seulement les sociétés sont inégalitaires entre elles, massivement, c'est pas simplement à l'intérieur des sociétés qu'il y a des riches et des pauvres, il y a des sociétés entières ou presque riches et des sociétés entières ou presque pauvres. Et que cette disparité-là, hein, cet échange inégal, qui est la base de toutes ces discussions, et ben cet échange inégal, il est pris maintenant, il est visible des deux côtés. C'est-à-dire que depuis ce bidonville, on voit les images de New York. Et depuis New York, on peut voir les images de ce bidonville. Donc cette information-là qui circule, il faut aussi faire avec aujourd'hui. Alors les informations qui circulent, vous voyez, si vous cherchez sur Google des images du slum de Mumbai, on en trouve autant qu'on veut, par dizaines, par centaines. Voilà, vous pouvez y aller. Ça circule. Alors Mumbai, c'est pas que ça. C'est aussi de la ville traditionnelle, vous voyez au premier plan. C'est aussi de la ville moderne, vous voyez au second plan. Toujours Dharavi avec la ville moderne, cette fois-ci au loin. Et cette image-là, hein, c'est-à-dire la côte, quelques tours modernes et puis un bidonville, c'est à peu près l'image que vous pouvez faire dans toutes les capitales africaines. Là, vous êtes à Lagos, au Nigeria, et vous avez au fond, en haut à gauche, le quartier des affaires avec ses tours que vous distinguez, l'autoroute qui passe au-dessus de l'eau, qui relie jusqu'à l'aéroport, et en dessous, dans la lagune, un bidonville qui flotte sur l'eau. Alors, finissons. Une affiche d'Amnesty International. Voici à quoi ressemble un camp de réfugiés syriens. Et en fait, on a beaucoup de mal à voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut lire dans cette affiche-là ? C'est pas si simple que ça, si ce n'est que c'est très vaste et que ça a un air un peu militaire dans l'organisation. Difficile d'en dire plus là-dessus. Voilà un camp de réfugiés au Sahara. Ça a l'air vaste aussi, peut-être un peu moins militaire, mais impossible de lire comme ça l'organisation. Voilà un camp de réfugiés en Turquie. Là, c'est clairement le penchant militaire. Alors, vous avez en mémoire de nouveau cette question des containers ou de l'informel qui s'était fait avec subtilité. Pour terminer, pour moi, voilà, l'enjeu, hein, c'est que ces milliers de personnes en transit sont là et seront là à l'avenir encore beaucoup plus nombreuses, et qu'il va falloir tisser avec elles des lieux pour vivre qui, si possible, même dans l'urgence, ne vont pas se tourner du côté du militaire, évidemment pour plein de raisons. Alors, pour terminer, je vais vous présenter en juste quelques images une tentative de Toyo Ito, un architecte japonais, qui a travaillé après le désastre du tsunami de 2011 pour essayer d'aller voir ses habitants du nord du Japon et dire, bon, tout a été emporté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et sa tentative, c'est de faire des maisons pour tous. Il en a fait 6, voilà une en chantier. Avec cette idée de faire un lieu commun, un lieu pour faire du commun. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « L'architecture du jour d'après » où il raconte un petit peu tout ça, le jour d'après le tsunami évidemment. Et c'est en référence à ce livre que je proposais de parler de l'architecture du jour présent pour ce qui nous concerne dans la ville migrante. Alors voilà l'intérieur de la maison pour tous. Vous voyez que ce n'est pas une chose très compliquée, luxueuse, mais néanmoins que ça n'a rien à voir avec un abri militaire et que ça semble assez favorable à élaborer des discussions pour une nouvelle vie. Et voilà la nuit de la maison pour tous, comme une lanterne. Et je vous remercie.
Merci Christophe de cette présentation des diverses modalités de ce que tu appelles joliment l'architecture possible pour le jour présent. Je voudrais passer la parole à Pascal, donc, et toujours sur cette idée-là. Le jour présent d'aujourd'hui, le jour présent à Paris, par exemple, avec la population des migrants qui sont là, dans le quartier de la Chapelle notamment, et donc le témoignage de Pascal sur cette possibilité d'habiter une ville qui, elle, est structurée, qui n'a strictement rien prévu pour accueillir ces migrants. Est-ce que, effectivement, les modèles proposés par Christophe sont des réalités que l'on peut retrouver dans une urbanité telle que celle dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la ville à Paris, ou est-ce qu'il nous faut aussi inventer encore d'autres modèles pour comprendre ce que veut dire et quels sont les enjeux de l'implantation de migrants dans une capitale telle que Paris?
Oui, donc moi je pense que je vais plutôt commencer par vous expliquer un peu comment ça se passe concrètement dans un quartier où vivent beaucoup de migrants, pourquoi des citoyens, des habitants de la ville de Paris se sont mobilisés aussi pour essayer d'avoir une action auprès des gens qui sont arrivés d'une manière un peu brutale. Donc il y a beaucoup de choses que tu as développées qui m'ont fait penser qu'il y avait des points communs et des choses complètement opposées dans ce que nous on vit au quotidien. Bon, déjà pour personnellement, je pense que je peux expliquer pourquoi j'ai aussi des problèmes de gorge. Je peux expliquer aussi pourquoi en tant que disons citoyenne et habitante du 19e arrondissement, je me suis intéressée presque du jour au lendemain à la situation des migrants, parce que quand on traverse une rue et tout d'un coup on voit qu'il y a 4000 ou 5000 tentes avenue de Flandre qui se sont installées très très rapidement et que des gens vivent là dans une situation complètement précaire, sans eau, sans électricité bien sûr, mais sans sanitaire, qui ont été finalement apportés très rapidement et désinstallés aussi rapidement. Donc quand on traverse cette rue-là, on se dit mais c'est pas possible que des gens vivent dans ces conditions-là, alors que nous, à 200 mètres, on vit très très bien, on a tout ce qu'il faut, etc. Donc les collectifs qui se sont organisés, c'était des citoyens qui vivaient ça tous les jours depuis quand même quelques mois. Depuis le mois d'août 2016, le quartier du 18e et 19e se sont remplis de migrants. Bon, ils étaient déjà là avant en une certaine quantité, mais là ça a été vraiment un choc énorme de se retrouver avec 5000 personnes qui vivent dans des tentes, dans des situations épouvantables du jour au lendemain. Donc là, oui, ça pose le problème de dire que la ville n'était pas prévue du tout pour ça. Et tout d'un coup, les gens voyaient toujours ça à la télé, mais là, c'était plus à la télé, c'était à 50 mètres de chez eux. Donc ils sortaient de chez eux, il fallait traverser l'avenue de Flandre, passer par-dessus les gens qui étaient allongés, qui dormaient dans des tentes ou sur des duvets, et là c'était plus de la fiction ou des choses qui se passent très très loin. Donc là c'est à côté de chez nous, et c'est chez nous, enfin chez nous entre guillemets, hein. je m'approprie pas le lieu, mais voilà. Donc les gens ont commencé, on pourrait dire que les voisins, puisque c'est surtout les voisins, puisqu'on fait partie d'un quartier, donc on est des voisins, ont commencé à se mobiliser pour faire quelque chose, pour entrer en contact avec ces migrants et pour leur apporter un peu de soutien, de base, de la nourriture, des vêtements, des moyens de se laver, les accompagner à la douche, etc. Donc bon, c'est assez compliqué de parler de tout ça parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai un peu de mal à vous parler de tout ça. Mais bon, par exemple, par rapport à la vie dans une ville, l'absence de sanitaire, d'eau potable, de moyens de garder ses affaires, en fin de compte, les gens qui sont là n'ont rien à voir avec les gens qui vivent dans la jungle entre guillemets, parce que là ils n'ont pas possibilité de s'installer même quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont été pendant un certain temps avenue de Flandre, très très nombreux, mais très rapidement il y a eu un dispositif de mise à l'abri, donc on les a fait partir. on pourra dire peut-être plus tard pour les faire, entre guillemets, les rendre invisibles. Ils sont partis dans des centres d'hébergement, un peu en périphérie de Paris. Et finalement, ces centres d'hébergement, moi je ne les ai pas visités, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais visiblement, n'étaient pas prévus pour que les gens puissent y rester réellement, puisque finalement, au bout de quelques jours, ils revenaient tous aux endroits où nous étions pour faire des distributions de nourriture. Et en nous disant, ben, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de quoi se faire un petit déjeuner. Donc c'était uniquement pour la nuit, dormir, et à 8h du matin, il fallait sortir du centre pour se balader toute la journée, enfin se balader entre guillemets. Donc ça c'est un des autres constats que je peux faire, c'est que en discutant avec les migrants, bon c'est assez compliqué parfois, quand ils arrivent à Paris, ceux qui arriveraient, qui sont les primo arrivants, donc qui viennent d'arriver, ce qu'ils nous ont raconté beaucoup, c'est que en fait c'est l'angoisse, parce que toute la nuit il faut marcher, on peut dormir peut-être 1 heure, 2 heures, parce qu'on a peur, d'être agressé, alors que très souvent le discours habituel c'est les migrants qui vont vous agresser, mais eux ils ont peur aussi, enfin, c'est ce que j'ai ressenti pas mal de fois, eux ils ont peur d'être agressés, d'être victimes de violences, etc. Alors ça c'est un autre sujet. Donc ces gens-là ont été hébergés parfois, sont revenus très souvent, et à l'heure actuelle on peut dire que il y a moins de gens dans le 18e et le 19e fixés ou visibles, mais il y en a sûrement encore beaucoup et qui sont en permanence obligés de bouger, de changer, de partir, de se cacher, parce que justement on s'est mis à installer des barrières partout. Donc sous le métro Stalingrad, il y a des grandes barriques, enfin des grandes barrières pour empêcher que les gens se stationnent, se posent, etc. Là où ils se regroupaient vers la porte de la chapelle en attente de rendez-vous, de rentrer dans un centre fait par la mairie de Paris, on a posé des blocs de pierre, donc pour pas qu'ils puissent s'asseoir, s'installer, dormir. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques semaines, sur une petite place dans le 18e où on faisait une distribution de petits déjeuners, il y avait un banc qui nous servait pour poser tout simplement la nourriture. Le banc a été enlevé, donc le banc c'est du mobilier urbain, donc pour éviter justement qu'on puisse continuer à distribuer à cet endroit-là. Donc finalement, quand on réfléchit bien, sans rentrer dans une analyse, il faut à tout prix que ces gens-là, à Paris, dans la ville de Paris, dans les quartiers dans lesquels ils sont surtout concentrés, il faudrait éviter qu'on les voie. Donc tout est fait pour que on ne les voie pas. Donc bien entendu, ils ne disparaissent pas, ils sont pas très loin, ils se cachent plus ou moins. Maintenant, on peut dire que ce matin, j'ai fait un tour pour voir un peu ce qui se passait dans le quartier de Pajol, la rue Pajol, c'est dans le 18e. Bon, en fait, les gens, actuellement, ils ont commencé à aller vers le jardin, un jardin qui s'appelle Jardin des Halles. Et je pense que c'est un peu, j'avais lu sur Marseille, c'était un peu la même chose. En ce moment, on essaye de pousser les gens à aller dans les lieux, genre jardin public, pas les jardins, le Luxembourg évidemment, mais des jardins qui sont dans le 18e ou le 19e, où ça gêne moins les gens parce qu'on les voit pas trop, et puis c'est pas des jardins qui sont tellement investis par les gens du quartier. Donc pour continuer un peu sur mon ressenti, c'est que la présence des migrants dans la ville, dans ces quartiers-là, ça pose un problème de relation avec les gens qui habitent dans le quartier. Donc il y a des citoyens, des voisins solidaires, donc des gens qui s'organisent, qui viennent en aide, qui essayent de soulager, etc. Mais il y a aussi des gens qui vivent très mal la vue dans le bas de leur immeuble de migrants. Donc il y a tout un tas on raconte tout un tas de choses, on essaye de faire peur aux gens, etc. Donc c'est quand même vraiment problématique quand on est dans un quartier dans lequel des gens sont là parce qu'ils ont juste une seule envie, c'est de s'en sortir dans leur vie. Ils arrivent d'un long parcours qui a été terrible, et quand on vous dit, ils vous disent à la fin quand on arrive à communiquer, que le pire pour eux finalement c'est quand ils sont à Paris. Après tout ce qu'ils ont vécu, la traversée de la Méditerranée, l'Afrique, la Libye, pour qui pour la plupart c'est terrible ce qui s'est passé en Libye, mais ils vous disent que finalement arriver à Paris c'est horrible quoi. Donc voilà, ça c'est un peu quelque chose que je voulais dire. Et je sais pas si je peux encore vous... Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais si j'essaye d'aller un peu dans le sens de est-ce qu'on peut habiter Là, je pense qu'il ne s'agit pas d'une ville migrante, mais ça, il s'agit de migrants qui sont dans une ville. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire la jungle, par exemple, de construire en dehors d'une ville. Je pense que c'est un peu ce qui se prépare actuellement. On essaye de les faire aller vers d'autres endroits et surtout de les faire sortir de la ville dans laquelle nous, on vit depuis longtemps et qui est structurée. Puisque les gens qui sont actuellement dans le nord de Paris, on les a poussés à aller vers la Porte de la Chapelle, donc dans des zones un peu de non-droit, ou même maintenant, on les pousse à sortir de là et à aller encore plus loin. Et je voulais juste aussi rajouter que si les gens ont dormi dans la rue dans Paris, c'est pas parce qu'ils aiment dormir dans la rue à Paris, c'est parce que souvent ils sont en attente de rendez-vous pour régler leur situation administrative, donc dans des lieux qui sont très clairement identifiés, donc vers Belleville, vers Stalingrad, ils doivent faire la queue pour aller faire une demande d'asile dans c'est France Terre d'Asile, et donc ils font la queue, et pour pas perdre leur numéro, leur place dans la queue, et ben ils dorment sur place tout simplement. Donc c'est souvent pour ça qu'ils dorment là ou ils dorment vers la Porte de la Chapelle. Bon, ça c'est une des explications. Bon, c'est peut-être pas la seule, mais bon, les gens pensent que les gens viennent à Paris pour s'installer, vivre là, et comme si ça leur faisait plaisir de vivre dans cette situation. Ceux qui sont à Paris, je pense qu'ils sont pas du tout heureux d'être dans cette situation-là, et ils ont même pas la possibilité de s'organiser, d'organiser une sorte de petite vie comme on voit dans la jungle de Calais. Actuellement, bon, il y a une période, c'est la période de Ramadan, donc on s'est posé la question des distributions de nourriture, mais les gens, par exemple les Afghans nous ont un peu expliqué qu'eux, ils vont s'organiser entre eux. Alors certainement qu'ils sont en train de s'organiser dans les endroits où ils dorment, à l'abri, dans des abris où ils sont. Donc on ne connaît pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément envie non plus de nous mêler à leur vie, disons, parce qu'ils sont un peu sujets à des tracasseries policières. Donc on évite de trop leur poser des questions là-dessus, mais ils s'organisent certainement un peu en ce moment pour ça, mais à part ça, le reste, non. Ils peuvent pas s'organiser comme dans une ville où on peut construire quelque chose. Puisque chaque fois qu'ils ont même des duvets, on leur a enlevé les duvets, on les a mouillés pour qu'ils puissent pas rester dormir. Donc il est pas possible même de dormir dans la rue actuellement. Il faut se cacher, il faut sortir vers 6 heures du matin, parce que il y a beaucoup une présence policière très forte actuellement. Donc ce que je voulais rajouter aussi, ça, c'est un peu désorganisé, je suis désolée, mais c'est plutôt des ressentis que je vous transmets. C'est que par exemple dans le quartier de Flandre, là où nous habitons, les gens, les migrants, bon, viennent très régulièrement au petit déjeuner qu'on organise nous à deux endroits. Peut-être que c'est pas tant parce qu'ils ont besoin maintenant de nourriture, parce que les distributions de nourriture sont quand même relativement courantes et de très grand nombre de personnes s'organisent. Il y a plein de collectifs et on essaye de se rencontrer, de faire un peu les choses ensemble. Mais il manque pas vraiment forcément de nourriture, mais il manque de repères. Et je pense que ça, c'est un mot qui m'intéressait d'utiliser, c'est qu'on ait des repères, parce que tous les matins à 8h15, vous avez déjà des tas de gens qui sont là et qui nous attendent. Et finalement, c'est pas forcément pour ce qu'on va leur donner à manger, parce que même parfois ils ne nous demandent pas, ils en veulent pas, parce qu'ils n'ont pas faim ou ils ont déjà quelque chose. Mais c'est plus parce qu'on est des têtes connues, on est des voisins, on est devenus des voisins. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée, parce qu'un monsieur que je connais un peu, qui vient tous les jours depuis le mois de novembre à peu près, vit dans un jardin, et lui tous les jours il est au petit-déj, il vient, il passe, il nous parle à peine, mais quand on le croise dans le quartier, c'est plus la même personne. Il traverse la rue pour venir nous dire bonjour, parce que là c'est un être humain traité dignement, qui sourit et qui est content de connaître quelqu'un, même s'il ne nous connaît pas réellement. Par contre, quand il vient au petit-déj, bon, il essaye de passer inaperçu, parce que je pense que il est très digne, il n'a pas forcément envie de recevoir de la nourriture, mais il est obligé, donc il le fait. Mais ce que je trouve intéressant dans cette situation actuellement, c'est que malgré toutes les pressions, malgré toutes les difficultés, toutes les choses qui se font, qui se disent, etc., il y a quand même des gens solides, des citoyens solidaires qui essayent d'organiser une petite vie avec des migrants. C'est peut-être plus ce que je vois dans notre quartier, que les migrants ne peuvent pas s'organiser, eux, une vie, mais nous, on peut organiser quelque chose avec eux. Donc, par exemple, je cite le cas du 104, qui fait partie de la mairie de Paris. Bon, une fois par mois, il y avait un bal qui était organisé, qui s'appelle le bal des migrants. Donc, les gens des collectifs solidaires allaient avec eux très souvent. Et c'était un moment apparemment de joie, de plaisir pour tout le monde. Bon, il y a eu pas mal d'artistes qui ont aussi fait des activités avec les migrants. Toute une série de gens qui ont fait des illustrations, qui les ont vendues au profit des migrants. Et donc, ça a donné lieu aussi à des échanges où des migrants ont pu aussi s'exprimer, faire des dessins ou chanter, etc. Donc, il y a une petite vie qui s'est un peu organisée. Mais c'est pas du tout possible d'imaginer que ça puisse continuer, puisque en ce moment, c'est ça devient très difficile. Il y a beaucoup d'opérations policières et il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de réactions, d'instrumentalisation aussi de la part de peut-être une certaine presse. Actuellement, on nous a sorti que les femmes se faisaient agresser dans le quartier du 18e arrondissement. Bon, moi, je me suis baladée ce matin vers Pajol. Je suis allée à la chapelle régulièrement. J'ai jamais été agressée. Enfin, je dis pas ça parce que ça peut arriver à tout le monde et n'importe où, dans n'importe quel quartier de Paris. Bon, c'est sûr que c'est un quart des quartiers qui concentre des difficultés, donc les risques sont toujours plus grands, puisque non seulement il y a les migrants, mais il y a aussi d'autres gens qui sont dans le coin, et il y a des trafics, il y a des tas de choses qui se passent. Donc les migrants, il faut savoir que d'après le peu d'expérience que j'ai, ils ont très peur justement de cet amalgame, et ils ont très peur de se retrouver mélangés avec des gens qui sont pas là avec de bonnes intentions. Donc eux, ils ont pas du tout ce ressenti-là, ils sont extrêmement paisibles, et de toute façon, ils ont... mais aucun intérêt à se faire remarquer de quelque façon que ce soit. Voilà, bon, je pense que j'ai à peu près... Alors, si tu as quand même dit que j'étais intéressée par les mineurs, donc c'est vrai qu'il y a plein de mineurs qui vivent à Paris en ce moment, qui sont isolés et qui sont absolument très, très mal accueillis. Donc, ils sont souvent érythréens parce qu'ils ont environ... entre 14 et 17 ans, il y a un nombre très très important d'Érythréens, de jeunes Érythréens. Alors quand ils sont pris en charge, soit on leur dit qu'ils sont pas mineurs, simplement en les regardant, on décrète qu'ils sont pas mineurs. C'est sûr qu'un mineur qui a traversé l'Afrique, la Méditerranée, il a peut-être le visage plus fatigué qu'un enfant qui est tranquillement au collège en cinquième, dans un quartier n'importe où. Et ils ont pas le même, certainement pas le même vécu, donc on peut croire qu'ils sont plus âgés, mais il y en a quand même qui sont vraiment visiblement mineurs et qui ne sont pas pris en charge, alors que c'est du ressort de chaque conseil général de les prendre en charge. Bon, et en plus, ce qui se passe aussi, peut-être ça peut aussi expliquer les choses, c'est qu'ils sont souvent, parfois ils sont accompagnés d'un adulte ou d'un frère, et il n'est pas possible qu'ils soient reçus, hébergés ensemble. Donc ils ne veulent pas se séparer. On peut les comprendre. Parce que se retrouver tout seul au centre de la chapelle avec on parle pas la langue, parce qu'il y a aussi le problème de la langue, c'est très très compliqué de dire à son frère, mais non, toi tu peux pas rentrer, lui il peut rentrer, mais toi tu peux pas rentrer. Moi j'ai accompagné des mineurs, donc ils sont repartis, ils n'ont pas voulu rentrer parce que on n'acceptait pas que le grand frère rentre avec eux, et ils étaient très très angoissés de ce qui allait leur arriver. Voilà, donc je pense aussi que par rapport à j'avais noté quelques points. Même les associations, par exemple MSF, qui agit beaucoup, même eux, parfois, sont interdits de s'installer. Donc, une fois, j'avais accompagné des migrants à une consultation. Ils avaient réessayé de revenir à Avenue de Flandre et on leur a interdit, la police les a fait partir. Donc, ils sont obligés de diminuer leurs actions, en tout cas dans le quartier, dans les quartiers dans lesquels sont présents les migrants. Voilà, je pense que j'ai à peu près essayé de dire tout ce que je pouvais.
Je voudrais apporter mon témoignage aussi sur une réalité urbaine très très proche de celle de Paris, qui est celle de Marseille, que je connais beaucoup mieux. Et effectivement, je souscris à ce que tu dis, c'est-à-dire que quand il y a des espaces qui sont, entre guillemets, laissés aux migrants, là il y a une organisation urbaine autonome. Alors que quand la ville veut intervenir et veut contrôler ce qui se passe, là c'est l'échec absolu. Donc là il y a deux modèles, en fait, une possibilité d'une ville migrante, d'une urbanité migrante, si on laisse l'autonomie, justement, si on considère l'immigrant comme des sujets responsables et qu'on leur confie d'une certaine manière leur destin urbain. à défaut de leur confier un destin politique, mais du moins leur destin urbain. En revanche, quand ce destin urbain vient se confronter à une urbanité qui, elle, politiquement, socialement, économiquement est constituée, là, il y a un clash entre ces deux logiques. Et c'est ça ce qu'il nous faut vraiment garder présent à l'esprit. Il est évident que la séance de ce séminaire n'est là que pour poser des questions, donc on n'est pas là pour y répondre, mais je crois qu'il est nécessaire de poser ces questions-là et de voir que, par exemple, il y a cette réalité que tu as décrite à Paris et qu'à Paris aussi. Alors, le fait que les jardins publics, par exemple, sont des espaces qui sont bien plus facilement investis par les migrants, c'est aussi parce que l'urbanité, elle est moins présente. C'est que, d'une certaine manière, il y a quelque chose à habiter. Il y a un espace naturel, entre guillemets, à habiter. Merci de vos deux interventions. J'ouvre la discussion pour ceux qui et celles qui voudraient poser des questions, faire des remarques ou des observations.
Merci beaucoup à tous les deux de votre intervention qui a été vraiment intéressante. Moi, je suis psychologue, je travaille avec les mineurs isolés étrangers, au groupe SOS, sur Paris, derrière Stalingrad. Donc je connais les mineurs, je connais pas les adultes. Donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en est des adultes. Mais en tout cas, en ce qui concerne les mineurs, il y a une notion qui, je crois, est essentielle, qui est celle de l'errance, et qui explique une bonne partie des comportements qu'on peut remarquer chez eux. Et qui explique aussi, j'ai l'impression, un petit peu ce que vous avez expliqué, qui est que finalement, cette différence entre les bidonvilles et les villes migrantes, c'est que finalement, moi je pensais, quand je vous ai entendu parler de ça, je pensais à des villes errantes, en fait. C'est-à-dire, c'est des villes qui sont sans accroche, qui sont pas là pour s'arrêter, ou qui ne peuvent pas s'arrêter, qui sont dans une espèce de blanc traumatique, où la psyché, la psyché collective ne peut plus s'accrocher à quelque chose, où il y a un attachement encore très fort à la vie de la rue, qui n'arrête plus, qui n'a pas de fin, où il y a une sorte de... Alors là, je parle plus des mineurs, je parle moins, disons, des villes telles que vous les avez décrites. Mais en tout cas, sur l'errance telle qu'on la voit chez ces mineurs-là, il y a une vraie, très puissante dépulsionnalisation de la vie psychique. C'est-à-dire, il n'y a plus de plaisir. C'est comme si une partie du travail qui est vraiment fondamentale, c'est de les convaincre que c'est encore possible de prendre plaisir à vivre. Et ça participe à cette errance, ça. Et ensuite, il y a le fait que nous, on remarque que souvent, tous ces jeunes, ils n'ont pas de destination. C'est-à-dire, ils sont arrivés en France, mais ils ne savaient pas très bien où ils voulaient s'arrêter. Ils s'arrêtent un peu là où c'est possible, et puis une fois que c'est plus possible, ils continuent. Et c'est ce qu'on retrouve clairement dans les villes errantes, quoi, dans les villes errantes, dans les villes comme vous avez les villes migrantes. Hein. Et ça rejoint totalement cette absence de repères dont vous avez parlé. Le fait que ils sont tellement peut-être traumatisés d'une part, tellement habitués à la rue d'autre part, et aussi, bon, après, il y a plein de choses qui s'y raccrochent. Par exemple, la toxicomanie, ça s'y raccroche, évidemment. Ça couvre des dépressions, etc. Voilà, juste cette notion d'errance, peut-être, qui m'a l'air de bien coller avec vos deux discours.
Je voudrais juste dire quelque chose par rapport au fait qu'ils soient habitués à la rue. Je ne suis pas si certaine que ça, qu'ils aient toujours été des enfants qui étaient habitués à vivre dans la rue, parce que ceux qui viennent de l'Érythrée, etc., ils ont dû... Maintenant, ils se retrouvent dans une rue, dans la rue, etc. Je suis d'accord avec toi que Oui, je suis d'accord que c'est plus le fait qu'ils n'ont pas d'objectif clair, ils ne savent pas exactement où ils veulent aller. Et en effet, ils nous disent je veux aller en Angleterre, mais le jour d'après, ils nous disent qu'ils veulent aller en Allemagne, ils s'inventent des frères, etc., en Angleterre, en Allemagne. Certains vont à Calais et reviennent. Et c'est peut-être pour ça que la rue, entre guillemets, peut-être les rassure plus, dans le sens où c'est des endroits où ils vont retrouver des compatriotes aussi. Moi, je pense qu'ils ont plus peur d'aller dans les structures qui existent parce qu'ils ont peur d'être isolés, encore plus isolés. Mais ça, je ne suis pas certaine, mais je l'ai déjà entendu.
Oui, ce que je dis, c'est pas du tout qu'ils sont habitués de fait à la rue, qu'ils sont arrivés habitués à la rue. C'est que le parcours migratoire et les expériences qu'ils ont vécues et l'attente qu'ils vivent et qui est totalement inhumaine, cette attente administrative, les fait que de fait ils deviennent habitués à ce type de voilà de vie. Après, ça dépend évidemment bien sûr beaucoup de quelle région du monde ils viennent. Puisqu'on a beaucoup plus de Maghrébins qui vont être errants que de Maliens, par exemple. Voilà, parce qu'ils ont pas du tout les mêmes, ils viennent pas du tout du même milieu. Voilà.
Il y a un élément important ici qui est qu'on peut se penser autour de ce plaisir qui a été évoqué, le plaisir de la ville. C'est-à-dire que nous prenons pour acquis que ce que veut dire une ville et qu'on puisse prendre plaisir dans une ville, c'est une connaissance que les migrants possèdent. Or, dans mon expérience, ils ne la possèdent pas du tout. C'est-à-dire que même les Érythréens ou les Éthiopiens qui viennent de villes grandes ou moyennes en Érythrée ou en Éthiopie, ça ne correspond pas du tout à notre imaginaire de la ville. Et je crois que ce qu'il nous faudrait faire aussi, c'est d'une certaine manière désurbaniser notre imaginaire et comprendre que c'est un lieu tout simplement, pas un lieu urbain. Parce que quand nous prononçons urbain, nous avons un imaginaire qui se met en place. Et ça, c'est un travail, je crois, extrêmement nécessaire, mais extrêmement difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on ne les reçoit pas à Paris. La tour Eiffel, machin, c'est pas du tout. On les reçoit dans un espace qui est là, parce qu'il y a l'OFPRA qui est pas loin, enfin, etc. Oui. Et ça, je crois que c'est un défi pour nous qu'il faudrait mettre. Et ces urbanités-là nouvelles dont Christophe nous a parlé sont précisément de nouveaux imaginaires urbains aussi. Mais je crois que le travail pour nous, de les accueillir, si j'ose dire, les mains nues, c'est-à-dire non pas en tant que citoyens au sens étymologique, c'est-à-dire habitant dans une ville et sachant ce que veut dire habiter une ville, là il y a un travail dans notre imaginaire à faire et qui me semble un travail politique, évidemment.
Une question qui en découle un peu pour vous, ce serait si vous pouviez nous dire, peut-être que vous savez... Quelle est l'économie
Quand vous parlez, monsieur, on n'entend vraiment rien du tout, même en dressant quatre oreilles.
Ah bon, d'accord, désolé. Comment s'organise l'émergence du plaisir? Quel plaisir ils peuvent avoir? Parce que vous avez dit, par exemple, il y a quand même des institutions qui se mettent en place, il y a des écoles, il y a même un nightclub, enfin, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un moment où la ville devient un peu moins errante, du coup? Certainement, je suppose. Est-ce que les gens deviennent moins abandonniques? C'est-à-dire ils perdent un peu la peur... l'angoisse de perdre les choses, de tout reperdre, de la perte à répétition, est-ce que ça les... Est-ce qu'ils se...
Oui, bah, j'en sais rien.
D'accord.
Mais effectivement, cette idée de l'adolescence, et cette idée de l'adolescence et de l'errance qui est associée, je pense, peut correspondre assez bien à cette image de ces... ce que j'ai appelé ici la ville migrante, au sens où ça peut effectivement être l'adolescence d'une ville, ou en tout cas l'adolescence d'une vie qui est en train de se recomposer, et qu'à ce moment-là, on comprend qu'il y a quelque chose comme ça qui est effectivement errant, et que sûrement, du coup, ces nécessités de joie ou de ce que j'appelais de faire du commun, de repères, etc., des petites choses-là, deviennent vitales, quoi. Parce que l'errance errante dans un tissu errant, etc., il y a un moment où on perd pied, quoi.
Mais bon, je ne sais pas plus précisément.
On retrouve pied à l'endroit du plaisir de la vie, en fait. Hein. Et les villes changent certainement au moment où il y a justement ce nightclub qui apparaît, ce moment où il y a peut-être un bar, enfin, je ne sais pas, où il y a un marché.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose qui ne répond pas forcément à la question, mais il ne faut pas oublier aussi que tous ces jeunes mineurs dont on parle, ils sont aussi extrêmement... ils sont possibles, des sujets possibles de prédateurs. Et actuellement, il y a énormément de soucis. J'imagine que tu le sais très bien, mais avec des risques de prostitution, de réseaux de prostitution, etc. Donc, ils sont extrêmement vulnérables et fragiles. Donc, la priorité numéro un, peut-être, ça sera peut-être vraiment de les protéger, quoi. Même si je pense qu'il faudrait leur redonner de la joie, c'est certain, mais le minimum, ils ne l'ont pas déjà.
Oui, merci beaucoup, c'était très stimulant. Je voulais aussi parler sur ce que tu dis, de la prédation économique, en pensant à une conférence que j'avais vue de Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui est vraiment quelqu'un de remarquable, je trouve, par rapport à son accueil des migrants, puisqu'effectivement, comme tu disais, il prend en compte le fait que voilà, c'est là, ça existe, qu'on peut pas effacer ça, que maintenant, il faut faire de l'habitat, enfin, il faut, voilà. Et quand même, ce qui me frappe par rapport à ce que tu disais à Marseille, c'est que quand il a commencé, il y a plusieurs années, à essayer d'installer d'abord, effectivement, des toilettes, parce que ça, c'est fondamental, et puis des douches, il y avait juste un bloc de douches et puis quelques sanitaires, et dit-il, le jour d'après, il y avait des passeurs devant, et c'était 2 € les toilettes et 5 € la douche. Et donc, il a compris qu'il fallait non seulement de l'habitat, mais des gestionnaires de cet habitat. Et ça coûte des sous, d'ailleurs. C'est un type qui passe son temps à chercher des budgets pour faire fonctionner... Alors comment ça s'appelle? C'est pas un camp justement, c'est il essaie de faire mieux que ça, quoi. Voilà. Même si effectivement les cabanes qu'il avait faites à Grande-Synthe avant l'incendie avaient un côté un peu militaire quand même, d'alignement, quoi. Mais avec cette idée, si j'ai bien compris ce qu'il avait voulu faire, il avait travaillé avec des gens du HCR qui lui avaient dit une cabane c'est maximum 5 personnes et par groupe de 6 cabanes, des îlots quoi, de 30 personnes. 30 personnes. Au-delà, c'est, alors je ne sais pas en parler, mais au-delà c'est le bazar ou alors ça. Donc il y a vraiment des questions comme ça d'urbanisme. Je ne sais pas, hein, mais c'était les chiffres qu'il donnait. Alors il avait essayé de faire comme ça avec des.
Minimum. C'est ça la difficulté, quoi. On voit bien par exemple à Calais dans l'Atlas que des fois ils sont 6, des fois ils sont 20, puis des fois ils sont peut-être 37. Bon. Et selon comment ça s'organise, etc., c'est le côté quantitatif comme ça de l'urbanisme, évidemment il y a des seuils, mais 5 par maison, 6 maisons par 6 maisons, etc. Voilà, il n'y a aucune ville qui est comme ça, quoi. Aucune.
Je voulais juste quand même, parce que je sais que c'est un mot qu'on utilise dans la presse, enfin pour faire peur aussi, mais le problème des passeurs ou disons des exploiteurs, il faut les protéger aussi de cette présence-là. Et quand même l'État, c'est pas le méchant tout le temps, quoi. L'État a affaire avec cette protection-là, quand même, non?
La question ici que j'aimerais aussi aborder, c'est celle de la croissance exponentielle des arrivants. C'est entre 120 millions et 250 millions vers les années 2050-2060 que les migrants climatiques vont arriver en Europe occidentale. Donc là, pour les je dirais accueillir par facilité de communication, on est au-delà de l'accueil là. Comment est-ce qu'il est possible justement d'avoir une logique urbaine qui sera capable d'intégrer ces millions de migrants, ou est-ce qu'au contraire il faut simplement créer des espaces vides en leur confiant leur responsabilité de leur destin urbain? Et je pense, là nous avons une collègue brésilienne, je pense à ce qui s'est passé dans les favelas, où justement de la part des responsables urbains, il y a eu, bien on leur laisse l'espace et finalement ça se passe très très bien, entre guillemets. Il y a des organisations, il y a des auto-organisations, il y a des auto-organismes urbains qui se mettent en place. Et donc la question que je pose, c'est par rapport à ceux qui vont arriver par millions, quelle serait, et là par exemple, architecte que tu es, quelle serait la est-ce qu'on va vers l'espace vide qu'on leur laisse, ou est-ce qu'au contraire on planifie une urbanité pour eux?
Bon, évidemment, j'en sais rien. Il y a sûrement un mix. Tu disais tout à l'heure que là, c'est pas comme à Calais, parce que les gens sont dans une ville existante, et que ça, je pense que les grandes villes en général vont se mixer comme ça, voire ressurgir des logiques, disons plus de l'ordre du vernaculaire en termes d'habitat, etc., qui vont venir se mixer simplement avec la ville existante. Donc ça, c'est une partie. Après, il y a d'autres territoires, type la jungle de Calais, qui seront disponibles, ou les jardins, etc., ou des espaces sur lesquels on va pouvoir laisser faire un certain nombre de choses. Mais encore une fois, moi je pense que c'est très important de ne pas discréditer l'État, mais plutôt d'essayer d'amener l'État à prendre ses responsabilités, et que c'est pas tellement de s'en passer que d'accompagner l'autonomie des gens qui vont arriver, qui ont des capacités d'organisation, qui savent faire un certain nombre de choses, qui savent comment ils ont envie de vivre, s'ils veulent se mettre à 38 ou à 4, etc. Mieux que l'État, par contre, une douche, par contre, un réseau d'évacuation, par contre, un réseau d'électricité, ça, l'État, il sait faire mieux qu'eux. Mais il faut que l'État accepte d'accompagner des autonomies, ce qui n'est pas la même chose que de gérer une situation, quoi. Et c'est là où c'est un peu compliqué, quoi. Et bon, mais je pense qu'on aura, tout, mais 2050, c'est demain, quoi. 2050, c'est demain, et 250 millions de réfugiés en Europe, pour commencer, dans une Europe qui sera elle-même complètement déstabilisée par le changement climatique et plein d'autres conséquences qui vont avec. Ça laisse quand même un peu perplexe, quoi. Ça veut dire qu'en termes d'ouverture des imaginaires et de trouver dès maintenant des hypothèses, des solutions, de se dire que c'est là, ça existe, comme à Grande-Synthe. Ils tentent un truc, c'est comme ça, c'est peut-être pas terrible, mais enfin, ils tentent un truc avec cette situation qui existe, quoi. Et ils tentent de faire une chose habitable, quoi. Et puis après, on verra, ça va venir tellement fort, tellement vite, que c'est très compliqué d'anticiper, à mon avis, hein. Malheureusement. Mais...
En vous écoutant, je repensais à l'histoire de Paris, où en fait, il y a Paris s'est développé en cercle. Et au fur et à mesure que de nouveaux migrants s'installaient, le cercle augmentait. Et qu'est-ce qui s'est passé au début 19e, quand on a commencé à construire les premiers HLM, quand on a commencé à construire ces premières boîtes où l'imagination n'avait plus cours? Qu'est-ce qui fait que maintenant, Paris est encerclé, alors qu'on pourrait imaginer que là, ce que vous venez de dire, que des gens s'installent, commencent à construire, l'État s'en mêle, l'État fait les structures nécessaires. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une structure fermée, avec ces petites boîtes, et que tout ce qu'on propose est un aspect militaire? Bon, c'est des...
Bon, évidemment, l'aspect militaire est à nuancer, parce qu'il y a une variété extraordinaire quand même de dispositifs urbains autour de Paris, plus ou moins habitables, mais dont certains sont quand même relativement bien habitables. J'entends ce que vous dites dans cette idée d'une structure fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que pour cette fameuse ville migrante, il n'y a aucun espace concret qui lui est dévolu. Dans les plans locaux d'urbanisme, on a des zones pour travailler, on a des zones pour habiter, on a des zones pour faire je ne sais pas quoi, du sport, du machin. Bon, je caricature un petit peu, mais en fait, le territoire est absolument planifié par diverses activités, etc., des infrastructures. Là-dedans, il n'y a jamais une rubrique ville migrante. Jamais. Elle n'existe pas, ni à Paris, ni ailleurs pour l'instant. Et je pense que c'est cette rubrique-là qu'on est en train d'inventer, qu'il va falloir inventer nécessairement, et qu'on ne sait pas comment la nommer ou la mettre, quelle taille lui donner, quels outils, un peu plus d'État, un peu moins, de qu'est-ce que... Bon, c'est là où il y a une catégorie à inventer, quoi. Mais c'est sûr que entre les mailles du filet, dans des périphéries parisiennes, mais de toutes les villes du monde, et notamment... occidentale, européenne, nord-américaine, il y a de la place. Il y a pas mal de place encore pour se faufiler entre les mailles du filet. Dans les périphéries, le maillage est assez lâche, assez distendu. Et on va pouvoir trouver un certain nombre d'emplacements, de choses plus ou moins habitables. Mais c'est saturé dans nos esprits, c'est saturé légalement en termes de propriété des sols, c'est saturé, etc. Mais c'est pas saturé par l'usage réel des choses. Il y a beaucoup de lieux, y compris des lieux construits qui sont vides, pas simplement des lieux de plein air, etc. Il y a des quantités de hangars, des quantités de bureaux, des quantités de choses qui sont vacantes comme ça, qui, sous la pression, vont finir par être habitées, forcément. D'une manière ou d'une autre. Enfin,
autrement dit, ça serait un changement d'idéologie.
C'est ça. Ni plus ni moins. La question de la... Il y a deux questions qui vont être ébranlées, qui sont centrales. C'est celle de la propriété et celle du standard. Parce que là où ça travaille, ces villes migrantes, comme ces villes informelles, etc., c'est sur les standards de vie qui nous sont appuyés par la réglementation, par l'administration, etc. Et n'importe quelle salle, etc., aujourd'hui, pour avoir un permis de construire, doit répondre à un certain nombre de standards. Et on voit très bien que partout dans le monde, la majorité de l'humanité a toujours vécu de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple, et qu'il n'y a absolument pas besoin de ce standard de vie. Je vous rappelle le George Bush, le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. C'est une déclaration politique qui est quand même inouïe, quoi. Et ben, je pense que l'émigration vont négocier, qu'on le veuille ou non, quoi. Ça va, et pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur.
Juste un mot, peut-être aussi pour le meilleur, parce que finalement, les générations qui viennent sont des générations qui bougent. Plus personne ne naît ici, vit ici et meurt ici. Donc, oui, changement de l'idée que nous avons du mode de vie, oui, idéologique. Pour tout le monde.
Et on conclut sur ces prospectives. Merci de votre participation. Je vous rappelle que il y a deux sources d'information quant aux activités du séminaire. Il y a la page Facebook de la chaire Exil et Migration qui s'appelle Migrexil, et le carnet Hypothèse qui porte le même nom, www.migrexil.hypothèse.org. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine activité de la chaire qui aura lieu le 27 juin et qui portera, ce sera une journée d'études organisée avec la chaire Global South, les Sud Globaux de Françoise Vergès, et qui portera sur la question de l'étranger. Que fait-on de l'étranger aujourd'hui? Que fait-on de l'étranger de manière politique et pragmatique? Et que fait-on de l'étranger d'un point de vue théorique? Donc ça sera le 27 juin, et j'espère que les locaux seront un peu mieux aménagés, un peu plus habitables qu'ils ne l'ont été aujourd'hui. Merci encore à vous.